L'Europe actuelle pose question. Notre invité Francis Wurtz a peut-être des réponses.
Oui, et c'est avec grand plaisir que je reçois Francis Wurtz. Bonjour Francis Wurtz.
Bonjour et merci de votre accueil.
Je rappelle à nos auditeurs que vous avez été notamment député européen pendant 30 ans et que vous êtes un militant du Parti communiste. Vous êtes d'ailleurs venu à l'invitation des membres du Parti communiste à Manosque pour donner une conférence sur l'Europe hier soir. Une conférence qui a été très bien suivie avec beaucoup d'attention dans le public, et on va essayer avec vous de balayer un petit peu ce sujet qui est malheureusement passe en second plan dans le cadre des élections présidentielles qui nous concernent actuellement et plus tard des législatives. L'Europe, c'est quoi pour vous exactement?
Écoutez, je suis strasbourgeois, je suis né à, je sais pas moi, 2-3 kilomètres de la frontière allemande, je suis né quelques années après-guerre. Et donc, j'ai grandi dans l'idée que plus jamais ça. Il faut que les frontières deviennent des passerelles, il faut que les peuples coopèrent pour travailler ensemble et non pas se faire la guerre. C'est quelque chose avec quoi j'ai mûri. Et quand l'occasion s'est présentée de m'engager politiquement, c'était sur cette base, c'était dans le cadre d'un grand rassemblement international d'ailleurs, qui avait eu lieu à Strasbourg en 16 novembre 69, sur la sécurité européenne.
Et bien avant donc l'édification du Parlement européen.
Et enfin, le Parlement européen existait, d'ailleurs il existait à Strasbourg, mais c'était uniquement une assemblée consultative, c'est-à-dire formée par des parlementaires nationaux délégués pour quelques jours de session au Parlement européen. Donc je connaissais le Parlement européen, qui s'appelait pas Parlement européen, ça s'appelait l'Assemblée des communautés européennes, qui est devenu ensuite le Parlement élu au suffrage universel en 79, et c'est effectivement ma première élection à ce moment-là. C'était un moment un peu de pionnier, puisque on découvrait un nouveau monde et on était partie prenante de cette édification.
Vous avez été donc membre du Parlement européen pendant 6 mandats, si j'ai bien compté, 6 fois 5, ça fait bien 30. Vous avez vu grandir l'Europe, vous la voyez maintenant se séparer d'un pays important, qui est un des pays pas fondateurs, mais ô combien important, la Grande-Bretagne. Évidemment, votre regard va nous intéresser, mais l'Europe qui vous a fait rêver enfant et jeune en 1969, vous la trouvez comment aujourd'hui?
Je pense que l'Union européenne a malheureusement perdu ce qui est absolument l'essentiel, à savoir la confiance de la majorité des citoyens européens. Ça ne peut pas continuer comme ça. S'il n'y a pas une profonde transformation, mais vraiment une profonde transformation qui tienne compte de l'attente des citoyens européens dans leur diversité, cette Europe court vers sa fin. Et je pense que ce serait un très grand recul, parce que je crois à la coopération, je crois aux valeurs communes, je crois aux projets communs, constructifs, et nous devons, nous, les forces vives, disons, de nos sociétés, nous devons prendre cette affaire en main et ne pas la laisser à ceux qui la conduisent dans une impasse dramatique. Ça, c'est ma conviction.
Avec peut-être la création d'une Europe sociale?
Je pense qu'il y a effectivement quelques grandes questions qui transcendent beaucoup de sensibilité dans les populations en Europe. La première de ces questions me semble effectivement être la question sociale. Et j'ajouterais question sociale et écologique, parce que de nos jours, je pense que les deux choses vont de pair et doivent absolument aller de pair. Et puis il y a une deuxième, j'y reviendrai le cas échéant si vous le souhaitez, mais une deuxième grande valeur qui fait défaut aujourd'hui et qui tient à cœur des citoyens européens dans leur diversité, c'est la question de la démocratie. Ils ont l'impression, les gens, et pas seulement, hélas, une impression, c'est une réalité, qu'ils n'ont pas prise sur des décisions qui ont ensuite un impact considérable sur leur vie quotidienne, sur la vie de leur pays, etc., etc. Et puis je dirais, il y a une troisième valeur forte qui rejoint votre introduction, c'est que l'Europe doit être porteuse de grands desseins dans lesquels on croit, dans lesquels on a envie de s'investir. C'est pas simplement un marché. Ça ne peut pas être simplement un marché. On ne peut pas tomber amoureux d'un marché ou d'un taux d'intérêt. Il faut qu'il y ait de la chair, il faut qu'il y ait du souffle. Et au début, beaucoup de gens adhéraient à l'idée européenne dans les années 50-60 à cause de l'idée de la paix. Et l'Europe, c'était quand on fait du commerce entre pays, ben on ne se bombarde plus, on ne se fait plus la guerre. Aujourd'hui, je pense que un des projets fédérateurs dont l'Europe devrait être porteuse, pourrait être porteuse, c'est d'être une masse critique suffisante pour peser sur la mondialisation, d'être à la fois en quelque sorte un bouclier contre les effets pervers de cette mondialisation, la mise en concurrence généralisée, etc., etc., et d'autre part, d'user de son poids, de son influence pour, avec des alliés dans le monde entier, sur tous les continents, faire émerger des relations internationales plus équitables, plus démocratiques, plus pacifiques. Et je sais, pour avoir beaucoup voyagé, notamment dans les pays du Sud, je sais qu'il y a une très forte attente en Afrique, en Amérique latine, en Méditerranée et y compris aux États-Unis, où je me suis rendu quelquefois à l'invitation de forces démocratiques, de forces progressistes, qui ne sont pas des forces marginales. On a vu d'ailleurs pendant la campagne présidentielle américaine l'impact de M. Sanders. C'est quand même quelque chose de remarquable. C'est-à-dire qu'il y a des millions d'Américains qui souhaiteraient travailler avec d'autres forces de progrès dans le monde, dont les Européens, pas seulement eux, mais dont les Européens, à réaliser un monde plus vivable, plus humain, plus enviable que celui dans lequel nous sommes. Donc il y a de très grands projets fédérateurs dont l'Union européenne devrait être porteuse. Il y a aussi, par exemple, la question de la sécurité du continent européen. Je trouve dommageable qu'on ne puisse pas aujourd'hui, en 2017, faire quelque chose, travailler à quelque chose de semblable à ce qu'on a été capable de faire en 1975, alors que c'était la guerre froide, c'est-à-dire la conférence d'Helsinki pour la sécurité et la coopération. Pourquoi on ne travaillerait pas aujourd'hui à une nouvelle conférence type Helsinki, c'est-à-dire avec tous les pays du continent, pas de l'Union européenne seulement, du continent, pour dire, voilà, nous avons des différends, mettons-les sur la table, plutôt que de nous regarder en chien de faïence, voire d'envoyer des soldats, pour aplanir, faire les compromis nécessaires, et pas le faire seulement entre diplomates, y compris associer l'opinion publique. Ce serait quand même autrement responsabilisant et motivant que de se lancer dans des polémiques stériles et puis de se faire une concurrence folle qui fait des victimes tous les jours.
Vous avez évoqué la mondialisation et le marché. L'Europe, on rappelle, c'est quand même la première puissance économique mondiale. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, avec les Anglais, plus de 500 millions d'habitants, c'est considérable. Mais c'est aussi une Europe qui détermine des politiques d'austérité. Nos amis espagnols s'en souviennent, nos amis grecs en souffrent, et peut-être même que d'autres pays en souffriront, pourquoi pas la France aussi, dans quelques années. C'est pas le rôle de l'Europe, ça.
Non, je pense que effectivement, cette crise de confiance dont je parlais au début a essentiellement progressé de façon spectaculaire à partir de 2010 avec la mise en place de ces politiques d'austérité drastiques, avec cette invention diabolique qui s'appelle la Troïka, c'est-à-dire un consortium composé de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international, qui a mis littéralement sous tutelle des pays souverains, comme la Grèce, comme le Portugal, comme l'Irlande pendant un temps, comme Chypre, et pour, en quelque sorte, les tenir par l'argent. puisque vous avez des problèmes, eh bien, c'est nous qui allons faire votre politique. Donc, la Troïka dépêchait des équipes de fonctionnaires européens, européens ou internationaux, avec le Fonds monétaire, dans ces capitales, et qui disait au ministre des Finances, tu vas pas faire ça, tu vas faire ça, et au Premier ministre, vous allez supprimer tel avantage aux retraités, vous allez privatiser tel bien public, et c'est quelque chose d'insupportable et d'humiliant. Et je pense que parallèlement à ça, il y a eu ce qu'ils ont appelé la nouvelle gouvernance économique, qui est toujours en vigueur, à savoir que dorénavant, un pays membre, tous les pays membres de la zone euro, y compris la France, doit chaque année négocier avec la Commission et le Conseil l'élaboration du budget national. Avant le Parlement national, ça doit être négocié au niveau européen. Il faut quémander la possibilité de prendre telle mesure ou telle mesure. C'est quelque chose d'inacceptable. Vous voyez, ça centralise le pouvoir entre des mains non maîtrisables par les citoyens, qui ne sont d'ailleurs pas informés du tout. Il y a des documents qui circulent, je les lis. Ils sont publics, mais personne ne les lit. Moi, je les lis parce que je suis impliqué là-dedans. Des documents véritablement de maître d'école à élève, venant de la Commission à un État souverain, comme par exemple la France, mais les autres aussi, qui disent, mais sur des pages et des pages, ça, vous avez bien fait, on peut continuer, là, vous en avez trop fait, faut réduire, là, faut supprimer, c'est pas possible, vous êtes pas assez compétitif, faut faire ci, faut faire ça, mais où on est ?
Et sur le terrain, ce sont des drames, en Grèce, par exemple.
Et sur le terrain, ce sont des drames. La Grèce, c'est en quelque sorte la partie émerger de l'iceberg, c'est la pire situation. La Troïka, les dirigeants européens, ont littéralement broyé la société, la fierté de plusieurs générations. C'est quelque chose qu'on va payer longtemps. Qu'on va payer longtemps. Vous savez, en Grèce, heureusement qu'il y a une force progressiste qui résiste, mais il y a des néo-nazis. Il faut savoir quelle irresponsabilité il y a de la part des dirigeants européens d'humilier un peuple où il y a ce risque qui peut, heureusement pour le moment il y a des digues, hein, mais qui peut devenir quelque chose d'horrible qu'on ne voudrait pas revoir. Et vous savez bien que dans les autres pays, il y a aussi ces forces qu'on dit populistes, souvent des forces d'extrême droite extrêmement dangereuses qui montent. Donc, il y a un intérêt démocratique vital, je dirais, dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, de reprendre à notre compte le beau projet européen pour ne pas le laisser saccager par des dirigeants que j'estime irresponsables.
On continue à parler finances, si vous voulez bien, avec un des éléments, un tiers de cette Troïka dont vous parliez tout à l'heure, la Banque Centrale Européenne, avec cette incongruité quand même de pouvoir prêter de l'argent et des sommes d'argent faramineuses à des banques qui, elles, vont les prêter avec des intérêts, mais la BCE ne peut pas prêter aux États et elle les prête à ces banques à un taux zéro. Ça aussi, c'est une incongruité.
Oui, parce que...
C'est même incohérent.
La Banque Centrale Européenne en elle-même, le principe d'une Banque Centrale Européenne à la tête de la politique monétaire d'une zone, en l'occurrence la zone euro, c'est quelque chose qui peut être, qui pourrait être un outil formidable. Pourquoi ? Parce que cette banque, puisqu'elle repose en quelque sorte sur les richesses d'un très grand nombre de pays, a une faculté, une capacité absolument extraordinaire dont il faut prendre la mesure. Elle a la capacité de créer de l'argent pratiquement de façon illimitée à partir de rien. Et elle le fait. C'est sa mission. Elle le fait tous les jours. Elle le fait dans un cadre normal pour prêter de l'argent aux banques. Je parle de l'argent normal pour prêter à l'économie, etc. Mais elle le fait actuellement, et depuis maintenant des mois et des mois et des mois, de façon invraisemblable. Elle décide de créer chaque mois 80 milliards d'euros, une fois et demi le budget de l'éducation nationale français. Depuis avril, c'est 60 milliards. Mais depuis des mois et des mois et des mois et des mois, c'était 80 milliards d'euros par mois. Et cet argent, est prêté aux banques, comme vous l'avez dit, et exclusivement aux banques, gratuitement, et sans aucune condition d'utilisation. On ne dit pas on vous le prête à condition que vous prêtiez à bon compte aux entreprises qui créent des emplois, aux PME, aux particuliers qui veulent investir dans de l'immobilier ou je ne sais pas, de la consommation. Non. Les banques sont libres d'en faire ce qu'elles veulent et comme c'est plus rentable de faire des opérations financières que de prêter pour des créations d'emplois, on fait des opérations financières. Donc nous disons, si cette formidable capacité de créer de la richesse, de créer de l'argent, pouvait être modifiée complètement dans son utilisation, à savoir que cet argent irait aux États membres et non pas aux banques, je parle maintenant de ces 80 milliards, mais en conditionnant, y compris pour les États membres, en conditionnant l'utilisation de cet argent à des projets
de développement,
créateurs d'emplois, de formation, de l'environnement, les services publics, la recherche, tout ce dont on a besoin et qui est la condition même d'une relance constructive, sociale, auquel tout le monde aspire. Vous voyez, donc c'est possible, mais évidemment, ça suppose quelque chose d'apparemment simple, mais qui suppose véritablement une grande volonté politique, donc un rapport des forces, c'est de changer les missions de la Banque Centrale Européenne. Et ça pourrait devenir une demande citoyenne large, à condition que les gens soient informés de cet enjeu. Et puis, c'est pas possible, comme vous l'avez dit, qu'un instrument aussi puissant échappe complètement au contrôle citoyen. C'est pas possible qu'on laisse quelques gouverneurs faire la pluie et le beau temps sur le nerf de la guerre, sur l'argent. Il faut qu'il y ait un contrôle public, c'est-à-dire par les parlements concernés. Et il me semble que ça me paraît essentiel.
Un autre élément qui concerne l'économie, évidemment, c'est la fiscalité des pays, avec l'attirance pour certains groupes internationaux et mondiaux de venir en Europe, mais de se poser que dans des paradis fiscaux, entre guillemets. On en connaît quelques-uns, l'Irlande notamment, le Luxembourg, et qui mettent en déséquilibre beaucoup de personnes avec maintenant peut-être un changement de mentalité avec peut-être des sanctions qui vont être prises. Je vous demanderai d'être assez court sur ce sujet, Francis Wurtz. Vous en avez parlé hier longuement. Le temps avance, il faut qu'on aille vite.
D'accord. Écoutez, il y a un vice de fabrication fondamental à cet égard de l'Union européenne, c'est que dans les traités, la concurrence fiscale est autorisée. Donc, à la limite, voilà, si un État membre estime que pour attirer les entreprises, il faut baisser l'impôt sur les sociétés de façon ridicule, ou pire, les laisser blanchir l'argent dans des paradis fiscaux, ils peuvent le faire. Donc ça, c'est absolument à bannir. Alors pour cela, il faut une pression populaire. Quand il y a eu le fameux scandale, exactement il y a un an, des Panama Papers, où l'opinion publique européenne a appris que des grandes entreprises, des grandes multinationales bénéficiaient de cadeaux fiscaux royaux de la part de pays membres de l'Union européenne. Il y a l'Irlande, mais il y a aussi la Belgique, bien sûr la Grande-Bretagne, etc., etc. Ça a déclenché un tel scandale que la Commission européenne s'est dit, il faut réagir, il faut faire quelque chose, sinon on va paraître complice de tout ça. Et effectivement, depuis un an, il y a toute une série d'affaires qui sont instruites par la Commission européenne face à de très grandes multinationales comme Apple en Irlande, qui
Google également
doit 13 milliards d'euros de remboursement de cadeaux indus à l'État irlandais. Mais il y a beaucoup d'autres, il y a des plusieurs dizaines de multinationales qui sont maintenant dans le collimateur de la Commission, et il faut évidemment continuer à exercer cette pression citoyenne pour que toute cette poussière ne retombe pas pour que ces affaires aillent jusqu'au bout, c'est-à-dire obliger les multinationales non seulement à rembourser de l'argent public indu, mais aussi pour que ce soit un signal pour l'avenir, c'est-à-dire que dorénavant, il y a des scandales qui ne sont plus possibles. Mais je dois dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire.
Vous avez dit hier en conclusion aussi que pour faire changer l'Europe, il fallait se battre. Et le combat, il risque d'être long à mener.
Je pense qu'effectivement, le mot, c'est le combat. Je pense que c'est un combat pacifique, politique, constructif, mais c'est un combat. Pour changer la société, c'est un combat. Pour changer l'Europe, encore plus. Et les deux sont d'ailleurs liés. Parce que si cette Europe est devenue comme elle est, c'est parce que les dirigeants nationaux des grands pays, dont la France, successifs, c'est pas une question de polémique immédiate, successifs depuis plusieurs décennies, ils sont pour quelque chose. Donc oui, c'est une bataille. Je pense que ça doit passer par l'information objective, permanente des citoyens. C'est la condition sine qua non. Il faut que les gens puissent prendre connaissance des réalités pour se faire une opinion. Ensuite, ceux qui sont et qui estiment que ça doit continuer comme ça sont libres de le faire. Mais je pense que la grande majorité des citoyens, c'est des gens normaux comme vous et moi. Ils se disent que plus de justice sociale, c'est nécessaire, plus de démocratie, c'est nécessaire, plus de projets communs, c'est nécessaire, pas seulement pour nous, de façon étroite, mais y compris pour le vivre ensemble européen et pour le vivre ensemble mondial. La paix, c'est pas seulement l'absence de guerre, c'est aussi la coopération, les projets communs, et ça passe par une refondation, je dirais, de l'Union européenne.
Dernière question, Francis Wurtz, vous êtes député honoraire européen du Parti communiste. C'est un parti qui avance sur ce domaine, sur la question de l'Europe.
Oui, j'ai été pendant quelques années responsable des questions internationales au Parti communiste et des questions européennes. Et j'ai toujours eu l'impression d'avoir la confiance de mes camarades quand je développais mes conceptions. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de constater que c'est un terreau qui s'élargit, y compris aux plus jeunes générations. Cela dit, nous ne sommes jamais, il faut jamais se considérer comme étant à jour, à la hauteur par rapport à cela, parce que c'est un tel enjeu qu'il faut se dire toujours qu'il faut faire plus et mieux, et le faire de façon extrêmement large, pas simplement avec nos amis, nos proches, mais il faut que ça devienne un mouvement citoyen très large de tous ceux qui se sentent authentiquement progressistes et humains.
On en parle plus dans la présidentielle, par exemple.
Je trouve que la question européenne, et comme vous l'avez, je crois, évoqué tout à l'heure, n'est pas bien traitée dans les élections présidentielles. J'espère que pour les élections législatives, ça sera quelque chose de beaucoup plus approfondi. On ne peut pas, comme dans les débats télévisés, régler ces questions en 90 secondes, comme c'est fait. C'est pas possible. On en reste à des slogans, on en reste à des idées superficielles, alors que justement, c'est le débat de fond, comme celui que vous avez mené ce matin. C'est dans des débats de fond qu'on peut permettre aux citoyens de se faire une idée plus précise, y compris des contradictions qui existent et de la manière qu'il faut réussir à maîtriser ces enjeux. Pour ça, c'est pas possible de faire simplement des joutes électoralistes. Il faut des débats de fond, et d'ailleurs pas seulement dans les campagnes électorales, mais tout au long de l'année.
Et vous l'avez dit, c'est l'apanage des radios libres, comme la nôtre, de pouvoir le faire.
Merci
beaucoup, Francis Wurtz, d'avoir été mon invité. Et puis, vous pouvez évidemment retrouver cette interview sur notre site internet. C'est la fin du journal. On a un petit peu débordé, et pour cause, avec la qualité de notre intervenant. Vous remerciez Evan pour la régie. On vous retrouve tout à l'heure à 15h pour l'agenda des sorties. Et puis, à 18h30 sur notre antenne du blues, rien que du blues, nos amis de District Blues. Juste vous annoncer que lundi, j'aurai le plaisir de parler musique. Et à notamment à propos du quatuor de Haydn, les sept dernières paroles du Christ, qui sera donné à l'église de Pierre-Vert mardi 11 avril. Nous invitons lundi le violoniste Bernard Maupin et Robert Françon, qui président ensemble l'ensemble de Provence-Verdon. Nous parlerons musique, ça aérera aussi notre programmation. Merci, bon week-end à tous et à bientôt.
Merci François, une bonne journée à tous. On se retrouve cet après-midi à 15h pour l'agenda des sorties. Au revoir.